Donc bonjour, donc nous avons été quatre à préparer cette communication, mais nous ne serons que trois pour la présenter, puisque Valérie Deldrel s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Donc Arlette Hera, Cécilia Cléis et moi-même Carole Barthélémy, nous allons vous parler, alors à nouveau, hein, de la ville de Marseille, mais plutôt vraiment centrée sur l'interface ville et calanque marseillaise, à travers la notion d'effort environnemental et d'effort urbain, les interactions entre la ville et les espaces naturels, à l'épreuve de la justice environnementale. Alors c'est un travail qui s'inscrit également sur une période de bientôt 10 années de recherche. Donc nous avons eu l'opportunité de commencer à travailler sur ce terrain au moment de l'élaboration du futur parc national des Calanques. On l'a fait de deux manières. Donc Arlette et Valérie ont travaillé dans le cadre d'un programme du ministère de l'écologie qui s'appelait Concertation Décision Environnement, où elles ont observé en fait les négociations, les mobilisations, les scènes de concertation qui ont précédé l'avènement du parc. Et Cécilia et moi, nous étions engagés dans un projet qui était LITO, qui est un projet aussi un programme du ministère de l'écologie sur le littoral. Et nous sommes intéressés aux usagers terrestres et marins sur le futur territoire du parc, notamment pour comprendre comment ces usagers appréhendaient l'avènement de ce nouveau dispositif. Et puis, on a la chance d'avoir pu continuer à travailler sur ces espaces. Et actuellement, nous travaillons sur les effets du parc, sur à nouveau les usages et les usagers, avec une focale particulière sur les interfaces ville-nature qu'avait déjà appréhendé Arlette dans le cadre du premier projet. Et nous réalisons ce travail dans le cadre d'une ANR, qui est un projet qui réunit de nombreux chercheurs en comparant plusieurs territoires. Alors nous nous inscrivons dans un cadre conceptuel particulier, qui est celui de la justice environnementale et des inégalités environnementales. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce courant que la plupart connaissent, qui suscite depuis quelques années de nombreux travaux. Pour la manière dont nous l'abordons, c'est dans le cadre de l'ANR FIJ, qui est pilotée par Valérie Deldrel et Jean-Cueline Cando, elle définit, une notion qui nous intéresse beaucoup, qui est celle d'effort environnemental. C'est-à-dire que quand on parle d'inégalité environnementale, ça peut être une approche assez statique, c'est-à-dire qu'on va assigner à un individu, selon sa position dans la ville, certaines contraintes ou aménités environnementales. Et ce qu'apportent Jacqueline Cando et Valérie Deldrel, c'est une approche plus dynamique de la justice environnementale, qui est de dire que l'effort environnemental, c'est quelque chose qui est généré par les politiques publiques. Quand au nom de la protection de la nature, on interdit un usage, ça fait porter un effort à la personne qui avait l'habitude d'avoir cet usage. Elles définissent deuxièmement l'effort environnemental comme une contribution à cette protection de l'environnement qui est différente selon les groupes sociaux. Tous les individus ne vont pas fournir le même effort environnemental. Et enfin, cet effort environnemental, c'est une contribution qui peut être monétaire. Aujourd'hui, en Camargue, par exemple, vous n'avez plus aucune plage qui est libre d'accès. Vous payez pour aller vous baigner aujourd'hui au nom de la protection des plages. Cette contribution, elle peut recouvrir une exposition au risque ou alors un accès différencié aux espaces naturels. Donc nous, cette notion d'effort environnemental, on l'a réfléchi par rapport à la situation d'interface ville-nature, dont les collègues vous ont déjà parlé tout à l'heure. Bon, lors d'une illustration, on voit bien l'imbrication au sud de Marseille entre le massif et la ville. Et on va vous montrer comment on a réfléchi à articuler à cette notion d'effort environnemental la notion d'effort urbain, qui va être en gros les dynamiques urbaines et comment elles s'imposent aux individus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a réfléchi à une notion d'effort environnemental urbain, c'est-à-dire une articulation pour certains habitants qui vivent dans certains quartiers à la fois les politiques urbaines qui viennent modifier leur cadre de vie, mais aussi, depuis le massif naturel, les politiques environnementales qui viennent impacter ces quartiers en marge. Alors, pour réfléchir à ce cadre conceptuel, on a des méthodologies d'enquête. Nous sommes donc sociologues, architectes et urbanistes. Donc, on fait des enquêtes auprès des usagers, qu'ils soient marins, terrestres, en immersion, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, alors là, j'ai pris les données qu'entre 2010 et 2012, on n'a pas réactualisé, mais il y a eu 125 entretiens réalisés auprès d'usagers. Et dans le cadre du projet concertation-décision, il y avait eu 15 entretiens réalisés, à la fois auprès d'usagers, d'habitants, de militants associatifs. Dans le cadre de notre travail, nous menons aussi des enquêtes auprès des acteurs institutionnels, aussi bien de la ville que du parc, pour avoir leur point de vue sur nos objets. Et aussi, ce que l'on fait, c'est de l'observation participante sur le long cours, c'est-à-dire qu'on suit il a été suivi les scènes de concertation au moment de l'élaboration du parc, on suit les scènes de mobilisation et tout ça pour restituer aussi ce qui se passe dans ces moments collectifs. Ici, on vous a localisé les différents terrains d'enquête. Donc ici, ce qui est en rouge, ce sont là où les enquêtes ont été réalisées auprès des usagers terrestres. Donc on est dans le littoral ouest. On a aussi enquêté au niveau de l'île, des îles du Frioul. De la même manière, pour les usagers marins, on était dans le même secteur. Et ensuite, on focalise nos études sur deux quartiers spécifiques, donc la Cayolle, dont on a déjà entendu parler, et aussi ce quartier ici, la Madrague de Montredon, qui est vraiment à la limite entre le massif et la ville. Par rapport à donc, ce cas conceptuel et nos enquêtes, nous allons vous présenter aujourd'hui trois résultats qu'on voulait soumettre à la discussion. Donc le premier résultat reviendra sur la notion d'effort environnemental, comment on le mesure finalement sur ces espaces. Et on verra que nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur un enjeu controversé qui est celui de la fréquentation du massif des Calanques, qui a beaucoup suscité de questionnements au moment de l'élaboration du parc, et on verra en quoi ça peut être interprété comme un effort environnemental. Ensuite, on parlera d'effort urbain, c'est-à-dire comment celui-ci s'exprime. On l'a déjà un peu vu avec la communication précédente, mais on le travaille de manière différente, donc sur marge urbaine et calanque, et justement comment ça questionne la transition ville-nature. Et enfin, on vous présentera ce qu'on appelle l'effort environnemental urbain, et on vous montrera que cet effort environnemental urbain, comment les usagers et les riverains font avec, et on vous montrera qu'il y a à la fois des processus de changement, mais aussi de résistance. Donc là, je passe la parole à Cécilia, qui va vous parler de l'effort environnemental.
Non, ça va. Je vais me lever, je n'arrive pas à passer la suite. Alors, je vais être assez rapide sur cette première partie pour laisser un maximum de temps à mes deux collègues pour les points 2 et 3 qui sont encore plus en lien avec la journée. Mais juste quand même pour vous mentionner ce thème-là qui mérite d'être évoqué. Alors, la question des flux et de l'éventuelle surfréquentation des parcs nationaux est aussi vieille que la création des premiers parcs nationaux américains, et la littérature est extrêmement dense en la matière. Avec une difficulté qui n'est pas spécifique à Marseille, qui est forcément des débats qui sont empreints de subjectivité et de postures idéologiques. Et donc cette situation-là, nous l'avons observée aussi à Marseille, mais elle a été exacerbée aussi parce qu'il y a, et il y a encore à ce jour, toujours, un manque de données, de quantification en fait, des flux d'usagers dans le massif des Calanques. Et un parti pris idéologique qui tendait à être récurrent pendant les débats, qui était finalement un petit peu le fantasme des hordes de Marseillais qui allaient envahir le massif. Ce que nous avons pu voir, nous, sur le terrain, c'est que finalement, dans nos enquêtes, la part des Marseillais est relativement stable et pas toujours majoritaire, même quand on enquête dans la zone du parc la plus proche de Marseille. Okay. Mais encore une fois, avec des éléments à manier avec prudence, parce que depuis les années 90, il n'y a pas eu d'enquête systématique sur l'ensemble des usagers du massif. L'autre dimension, par contre, qui est ressortie dès les débats au moment de la création du parc et qui perdure aujourd'hui, c'est que finalement, le vrai enjeu n'est pas tant le nombre d'usagers, mais surtout la façon qu'ils ont de fréquenter le massif. Alors vous verrez d'ailleurs, à la fin, on vous fait du jiggle pub sur les différentes publications de l'équipe, et vous verrez un article dont le premier auteur est Ludovic Guinelli, présent dans la salle, et qui a au cœur de son propos cette question de la mal fréquentation. Okay. Ce qui nous a aussi intéressé dans ces enquêtes, c'était pas seulement de tenter de quantifier les usages, mais aussi de recueillir le sentiment des usagers rencontrés. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, il existe des décalages entre le nombre d'usagers comptés et ce que les usagers ressentent. Okay, je ne rentrerai pas dans les détails, mais par exemple, on a fait un focus sur des usagers marins, où nous avions des appareils photo qui nous permettaient de compter précisément toutes les 10 minutes le nombre de bateaux, et au même moment, on faisait des enquêtes sociologiques en kayak auprès des bateaux pour recueillir ce que ressentaient les plaisanciers. Et on se rend compte qu'à situation objectivable égale, les différents interlocuteurs ne ressentaient pas, ne vivaient pas du tout la même chose. Parmi les éléments qui ressortaient, et ça c'est un trait commun aussi avec les usagers terrestres rencontrés, c'est qu'il y a en fait des stratégies d'évitement spatio-temporel, et il y a aussi l'idée à l'attachement à la liberté. C'est-à-dire que même lorsque les usagers ont la sensation que parfois il y a trop de monde, ils contrebalancent assez rapidement ce constat avec l'idée qu'on ne peut pas interdire l'accès à la nature, et en plus qu'ils s'inquiètent de cette réduction de l'accès à la nature que pourrait induire la création du parc. Cette inquiétude qui perdure encore aujourd'hui dans les premières mises en œuvre, même si on va le voir tout à l'heure avec Carole et Arlette, que pour le moment beaucoup de choses sont en cours de négociation. Un autre élément, et ça sera mon dernier point, toujours dans cette idée de prendre en compte le ressenti, le discours des habitants et pas seulement la dimension objective de l'usage, c'est que cet effort environnemental qui est induit ou potentiellement induit par la création du parc est d'autant moins facilement accepté qu'il induit des sentiments possibles d'injustice. Okay ? Alors, dans nos enquêtes de terrain, on a soumis cette notion de sentiment d'injustice à nos interlocuteurs. Et c'est amusant, c'est retraduit vraiment à la Marseillaise. Okay, alors je ne peux pas vous faire des extraits d'entretien marseillais parce que ça serait politiquement pas correct, mais souvent quand on demande est-ce que vous pensez que c'est injuste cette situation, la réponse c'est non, ils nous ont en... Okay, mais ça c'est intéressant sociologiquement parce que notamment sur les usages marins, il y a une dimension très masculine de l'enjeu et il y a aussi l'idée d'un sens de l'honneur, d'un sens de la parole. Et ce sentiment d'injustice, en plus, a été exacerbé par certaines prises de décision du conseil scientifique du parc, du conseil d'administration du parc et du parc, concernant des objets environnementaux problématiques, tels que le rejet industriel dans le territoire du parc, ou bien le maintien de Cortiou, donc les égouts marseillais, dans le territoire du parc. Et ça tend à exacerber ce sentiment d'injustice. Okay. Et ça sera vraiment mon dernier mot. Attention non plus, de ne pas non plus tomber dans une victimisation des usagers, okay, parce que sur le terrain, j'ai parfois certains usagers qui se plaignent de ne plus pouvoir pêcher, mais qui, plus loin dans l'entretien, me racontent qu'ils vont en vacances à Madagascar, pour faire de la chasse sous-marine à Madagascar. Donc, à pondérer socialement ce type de discours, et c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant, Arlette et Garonne.
Non, non, c'est bon. Hein. Donc effectivement, le deuxième résultat qu'on souhaitait partager, c'est sur cette notion d'effort urbain, hein, comme l'a présenté Carole. C'est pas la question de la pression urbaine, c'est-à-dire, par exemple, souvent c'est une manière d'évaluer en géographie, où on regarde comment est-ce que les terres agricoles ou les terres naturelles sont petit à petit mangées par l'urbanisation. Donc nous, on se situe vraiment au niveau des acteurs, des contributions qui sont demandées. Donc quels sont les efforts qui sont faits depuis effectivement qu'il y a le parc national des Calanques, et on voit bien que la politique ne serait-ce que de gestion d'accessibilité, de contrôle des flux d'un parc national devrait avoir des impacts sur la ville, et notamment la ville limitrophe, puisqu'on se situe véritablement en situation d'interface entre ville et parc, mais aussi comment est-ce que les politiques environnementales, qui sont prises notamment au titre du développement durable, qui vont dans le sens de préserver de plus en plus ces espaces naturels, reportent finalement sur les espaces urbains eh bien, un certain nombre d'impératifs, notamment d'accueil de croissance, d'équipement, d'infrastructures. Donc c'est tout ce que l'on met en fait derrière cette notion d'effort urbain. Et on est allé dans nos observations et dans les entretiens au plus près des espaces habités, dans des rencontres d'usagers, de riverains et donc d'habitants de ces lieux. Autant j'ai beaucoup apprécié l'intervention précédente, évidemment, sur la question de la fermeture résidentielle, où on se rend bien compte combien ce problème est très important, autant en même temps, ça me semble important aussi de parler de porosité quand on est sur le territoire marseillais. Alors peut-être pas que d'un point de vue nostalgique, même si effectivement on voit bien cette fermeture en cours, mais on va essayer aussi de vous montrer combien cette porosité peut encore peut-être avoir encore certains sens en certains lieux. Et cette carte, elle montre très bien, c'est la Tramvière, donc je ne sais plus si elle est publique et privée ou uniquement publique à l'époque où on l'avait faite, qui rencontre la topographie. Et en tous les cas, ce qu'elle dit, c'est qu'elle décrit parfaitement ce territoire marseillais très grand de 24 000 hectares, dont près de la moitié, 10 000 hectares, sont pris par les collines. Mais on voit aussi comment s'instillent ces toutes petites traverses, ces toutes petites trames de chemins ruraux, au plus profond, jusqu'aux confins, et jusqu'à rencontrer des lignes topographiques où là, on ne peut plus aller, sauf si on est piéton. Porosité aussi dans les usages, juste cette juxtaposition entre cette image qui fait partie d'un des premiers guides des randonneurs, qui montre effectivement cet essor de la randonnée dans les calanques marseillaises, et puis dans un guide qui n'est pas le même, mais qui est fait aussi à peu près à la même époque, au début du XXe siècle, une description de ce qu'on va trouver sur ces chemins de randonnée, c'est-à-dire une rencontre d'industrie et de leur pollution. Porosité dans les usages, porosité dans la trame, même si effectivement beaucoup d'affectations se font aujourd'hui. Nos observations et cette porosité, elle a été aussi quelque part, elle explique aussi la difficulté de sortir ce parc national des Calanques, qui a été pensé, demandé même par la ville de Marseille dès les années 70, mais qui finalement ne trouvera son aboutissement qu'en 2012, parce que pour certains acteurs, et notamment l'État, jugé trop urbain ou périurbain, et ce n'est qu'avec la réforme de 2006 qui permet justement de prendre en compte le point de vue des acteurs locaux et de prendre en compte aussi la dimension, on va dire, culturelle de ce patrimoine à l'intérieur, que le parc va pouvoir aboutir. Cependant, dans les observations que nous avions faites dans le cadre de ce programme CDE préalable à la constitution et à la création du parc, donc dans les années 2008-2011, on s'était rendu compte que la dimension urbaine était très peu travaillée et que c'était essentiellement des enjeux naturalistes qui avaient été mis en débat dans les scènes de concertation. Donc tout ce qui, justement, devait faire la spécificité de ce premier parc périurbain d'Europe n'avait pas été mis sur la table, et donc toute la question des franges reviennent aujourd'hui, par contre, de manière plus évidente, et notamment à l'occasion d'une nouvelle démarche qui est mise en place conjointement entre le parc national et l'agence d'urbanisme. Alors, sur cette carte, en fait, on situe d'abord les deux terrains d'études, mais avant de les situer, je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, la création du parc, c'est avant tout une création de périmètre, donc de limites. Effectivement, une première sectorisation qui va se faire entre, d'une part, ce qu'on appelle le cœur du parc, qu'on voit ici, qui est essentiellement, qui correspond d'ailleurs au site classé, et puis cette zone plus claire, que vous voyez ici en certains endroits, beaucoup plus décousu, et ce qu'on appelle l'aire d'adhésion, qui fait partie du périmètre du parc national, mais sur lequel la réglementation est évidemment très faible, et qui est plutôt construite comme étant un territoire justement de contractualisation entre parc et ville, visant à poursuivre des intérêts en commun pour la protection de l'espace naturel. Donc on voit en fait que déjà dans cette création de périmètre, il y a beaucoup à la fois d'arbitrages qui ont été faits préalablement, c'est-à-dire que pour le parc national des Calanques, contrairement à d'autres, on a considéré que l'aire d'adhésion c'était avant tout un territoire qui avait des qualités environnementales, donc du coup exclusion de beaucoup d'espaces urbains qui pourtant sont en confrontation directe, comme on peut le voir par rapport à la bataille de Montredon. Et il faut savoir que si une partie de la Cayolle est aujourd'hui en aire d'adhésion, c'est suite à un rapport suite au rapport de l'enquêteur public qui a présidé à la toute fin et à la création du décret de parc. Donc on est dans un système où on va se confronter en fait des lieux qui sont complètement en cœur, des lieux habités complètement en cœur, comme l'Escalette, le petit village de l'Escalette, des lieux habités comme à la Madrague de Montredon, où on est face à une réglementation de droit commun qui est celle de la ville avec son document d'urbanisme, et de l'autre côté, tout près de l'autre côté de la route, avec la réglementation de la charte du parc national, et des lieux qui sont un peu plus mixtes, dans lesquels effectivement le parc peut avoir une influence, mais on verra que cette influence est relativement réduite. Ces lieux que nous avons étudiés en fait sont marqués par le côté populaire. Parce qu'effectivement, même si on a une vision un petit peu duale d'un territoire marseillais qui est coupé entre un nord plutôt populaire et un sud bourgeois, il faut savoir d'abord que cette dualité est relativement récente. Elle date de du troisième quart du XIXe siècle, avec la décision d'étendre le port de Marseille, le port commercial, au nord, et donc effectivement tous les impacts que ça a pu avoir en termes d'infrastructures de transport, d'organisation d'activités, d'habitat ouvrier et autres, et que jusqu'à présent, on était plutôt dans une logique d'une ville centre, enfin le centre, la ville circonscrite et tout le terroir qui était à peu près équivalent. Hein, il faut savoir que fin 19e, on avait la part des ouvriers dans le canton nord et dans le canton sud était équivalent entre eux. Évidemment, ce changement va s'opérer, mais il n'empêche que les Calanques ont été aussi des lieux qui ont accueilli des industries. Donc là, il y a un travail en cours, un travail plutôt qui vient d'être réalisé et qui présente justement toute cette qualité, cette spécificité marseillaise d'avoir expulsé les usines du centre pour les mettre dans un lieu que nous considérons comme un des hauts lieux d'espace naturel, hein, mais donc avec effectivement une activité anthropique très forte. Ce sont des lieux qui ont été marqués comme tout lieu de marge, de confins, par des décisions publiques, d'installation de camps. Donc c'est ce qu'on voit là avec le camp de la Cayolle. Donc je ne reviens pas puisque Elisabeth l'a pas mal abordé tout à l'heure dans son intervention. Hein, mais donc avec des décisions publiques très fortes, hein, station d'épuration, prison, camp. Qui effectivement vont avoir du coup vocation aussi à accueillir tout un tas de populations qui ne vont pas trouver ailleurs sur le marché, notamment dans le centre, dans d'autres cadres, d'endroits pour se loger. Mais je voudrais aussi revenir sur ces quartiers parce qu'ils montrent aussi une mémoire collective très très forte sur justement cette histoire-là particulière, cette capacité d'avoir représenté finalement des zones populaires dans des quartiers sud qui aujourd'hui maintenant sont fortement caractérisées par l'accueil de populations supérieures. Alors j'avance, oui, parce que je pense que je perds un peu de temps. Alors pour autant, malgré effectivement ce mouvement, cette mutation des quartiers sud avec la désindustrialisation, avec de manière générale hein, la mutation vers une société de commerce tertiaire, de loisirs et balnéaires, et ça concerne évidemment ces quartiers-là, pour autant donc avec la création du parc national des Calanques, il se retrouve ces deux quartiers en situation finalement de porte d'accès à ce patrimoine naturel. Non sans ambiguïté, Parce qu'en fait, bien, on se rend compte que entre les deux documents, donc la carte de gauche représente le SCOT en 2012, donc le document stratégique, où on voit une porte créée à la Madraque de Montredon, et puis on voit que sur la caillole, la porte n'est pas véritablement symbolisée. Et puis on se retrouve en 2016, donc ça c'est une carte qui est extraite du plan de paysage, où on voit que la caillole est bien inscrite comme site d'accueil, hein, on ne parle plus de porte, mais enfin voilà, un site d'accueil majeur, et puis on voit que sur Montredon, la porte n'existe plus, et en gros le site d'accueil a été reculé encore plus profondément dans le cœur, parce qu'on a une voie, effectivement. Voilà. Alors, cette question de porte, ce qui est assez étonnant, pourquoi est-ce qu'on parle aussi d'ambiguïté, c'est qu'en fait, elle renvoie vraiment à la question de l'accessibilité, la maîtrise des flux, la question des transports en commun, dont on a aussi parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir. Et il est vrai que sur la Madraque de Montredon, on est face à une seule voie, en impasse, qui bute au bout des calanques. Et effectivement, pour les Marseillais ou pour les gens qui en ont fait l'expérience, il ne faut jamais y aller un week-end où il fait beau. Donc choisissez la pluie, choisissez l'hiver, choisissez la semaine pour pouvoir y aller en voiture parce que c'est un enfer de circuler. Sur la caillole, ce qui peut justifier un petit peu ce revirement, c'est qu'effectivement, moi, ce qui m'avait étonné lors des premières enquêtes où il y avait le projet de la NORU, donc de renouvellement urbain qui était en train de se mettre en place, c'était le fait que non seulement le parc national et la NORU ne se parlaient pas directement, ne construisaient pas un projet en commun sur ce lieu d'interface, mais qu'en plus, effectivement, la volonté de dire la caillole va être une porte d'entrée pour le massif des Calanques n'était pas de mise, notamment par les élus locaux qui mettaient ça dessous, avec cette hypothèse que nous avions, c'est qu'on attendait aussi de la NORU une mutation sociale accélérée compte tenu justement de la dynamique immobilière et notamment de la dynamique privée. Donc ce sont des lieux qui sont soumis à une forte intensification urbaine, donc là je passe vite parce que c'est à peu près la même carte que vous avez vue, 300 logements supplémentaires dans l'écoquartier, mais il y en a aussi ailleurs hein, qui se font, ben, par exemple... Ce que tu présentais sur la crique n'est pas dans l'écoquartier, c'est tout à côté. Enfin bon, donc on est face à une pression très forte, et une réhabilitation aussi, il faut convenir. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même un projet public. Hein. Mais c'est un projet public qui, quand même, compose beaucoup, effectivement, avec la part du privé, et compose d'autant plus que, par exemple, on a des terrains sur lesquels, des terrains qui sont aujourd'hui publics, en plein cœur des cités de la Caillole, qui vont être revendus pour un promoteur privé. Hein, donc, c'est-à-dire que cette entreprise de densification très très forte, elle se fait aussi dans ce cadre-là avec une régulation publique, parce qu'on a un projet de la NORU. Dans le cas de la Madraque Montredon, il n'y a pas du tout de régulation publique, hein, on va le voir, mais y compris quand il y a le public, c'est un public qui laisse aussi beaucoup faire. Donc c'est vrai que cette manière de voir cette densification se faire aux limites même du cœur de parc, donc là c'est la Madraque de Montredon. Je vous présente le projet qui est pour l'instant, qui a été, sur lequel il y a eu un recours, hein, donc il a été annulé, mais on peut imaginer que, évidemment, il soit représenté par le promoteur. Vous avez ici l'usine, la friche, d'une des dernières usines qui a fonctionné jusqu'en 2009, hein, ce qui fait aussi que ce quartier est resté avec ses caractéristiques en partie populaires, c'est que, ben voilà, il y avait aussi de l'activité qui était là, au-delà des pêcheurs. Des ouvriers et un habitat ouvrier. Donc c'est un quartier qui se renouvelle à la parcelle, on rachète des cabanons pour en faire des résidences secondaires, des maisons de pêcheurs, et puis il y a aussi ce grand projet qui mobilise une forte mobilisation, on y reviendra. Et juste pour vous montrer sur cette photo-là, on est donc sur le littoral, l'usine est en contre-eau juste là, au premier plan, et en fait ici c'est le crassier de cette usine, là où elle a déversé tout un tas, c'est une usine d'acide tartrique, où elle a déversé énormément de pollution dans les sols, et un chantier vient d'ouvrir pour créer 6 maisons de pêcheurs, voilà, c'est intitulé comme ça, donc voilà, en plein littoral, sur un crassier pollué, et à côté d'une falaise qui est en pleine érosion. Hein, donc là aussi, contradiction des politiques publiques en matière environnementale, ouais, avance. Et pour autant, donc, on revient sur cette question de porosité, parce que ça, ça nous a semblé important de voir aussi toujours ce qui était de l'ordre, on va dire, un peu peut-être des permanences, ce qui, malgré les dominations fortes, malgré les enjeux et les logiques très fortes, hein, notamment de libéralisme qui sont en cours, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je vous laisse lire cet extrait d'entretien parce que je trouve qu'il résume vraiment complètement. C'est un entretien que j'ai réalisé auprès d'une femme de 48 ans qui a toujours vécu à la Gaillole, qui est née là et qui a donc fait tout le périple des différentes cités de transition, bidonville, jusqu'à être relogée, et qui montre en fait par cet extrait-là son énorme attachement à un cadre de vie naturel, avec ne serait-ce que ce soit des usages du quotidien, des usages peut-être parfois plus exceptionnels, mais qui en tous les cas fait complètement partie. C'est-à-dire que la question à la Cayolle, la question de la colline, fait partie à part entière véritablement du paysage. D'abord, elle est très forte, elle s'impose dans le paysage, mais à tel point que, par exemple, j'ai été récemment à une réunion où on présentait où il s'agissait de préparer une histoire du quartier à présenter par les habitants à partir de photos. Donc, la personne qui a organisé avait prévu une photo sur telle cité de transit, une photo sur le camp, une photo sur le bidonville. Bon, il y avait un peu comme ça toutes les structures morphologiques, et en disant à chaque fois aux habitants qui a envie de parler de telle photo. Et à un moment donné, quelqu'un se levait en disant « et la colline ». Voilà, c'est-à-dire qu'elle fait véritablement partie. C'est le socle de ce cadre de vie. Oui, alors, et juste pour vous montrer qu'à Hollywood, ça c'est aussi important parce que ça c'est un travail qui a été fait dans le cadre de Marseille 2013, où il y a eu un programme spécifique pour les quartiers créatifs, dans les zones de renouvellement urbain. Et il y a eu, je trouve, un travail extrêmement fin, fécond, très riche, qui a été mené par des artistes pendant 2 ans sur ce quartier et qui a bien compris effectivement combien c'était important ce territoire, et que la territorialité des habitants de la Cayolle, c'était pas que leur cité, là où on voulait à chaque fois les renvoyer, mais que ça allait jusqu'à Sorbonne et que ça prenait en compte tout le massif.
Alors le dernier point que je voulais vous présenter, donc c'est un concept auquel on réfléchit d'effort environnemental urbain. Donc je ne vais pas revenir sur l'effort urbain, on l'a bien développé, hein, c'est l'effort qu'on demande aux habitants face à une politique de développement urbain. Par contre, ce qu'on voit dans ces interactions entre les politiques environnementales et urbaines, elles sont au moins sur trois critères. Le premier, c'est comment dans ces marges, on l'a vu, les enjeux fonciers sont importants et vont s'imposer à la fois par la ville, mais aussi par le fait qu'il y ait un parc, c'est-à-dire qu'on essaie de mesurer l'effet de la présence d'un parc sur le type d'offre foncière qui est proposée, sur le type de population qui va vouloir venir habiter par rapport à ce cadre de vie. Donc on met le terme gentrification, on n'a pas du tout le temps de revenir sur ce concept et la manière dont on le voit ne pas vraiment s'appliquer, on va dire comme ça, à Marseille, hein, par rapport à la littérature. Je ne reviens pas aussi qui nous paraît constitutif de l'effort environnemental urbain, c'est celui de la circulation, et que c'est sur ces marges qu'il y a des discussions sur les portes, et donc que les habitants vont peut-être subir de nouvelles contraintes dues au fait que l'on va choisir des portes d'entrée et peut-être des lieux de parking spécifiques. Et enfin, le troisième point, qui est par rapport à ce qu'a dit Arlette, que moi j'observe plus spécifiquement, enfin, on travaille sur Escalette et Madrague de Montredon, c'est que cette manière de penser la ville opposée au parc fait qu'on segmente ces liens qui existent entre les habitants et les milieux naturels. C'est-à-dire qu'on renvoie dos à dos la ville et la nature. Or, dans ces marges, c'est l'inverse qui se produit. Et nous, on pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre de ces pratiques qui sont ni urbaines ni naturelles. Alors, comment ça s'exprime localement?
Oui, en fait, on a. Voilà, donc dans une minute, comment est-ce qu'on a regardé aussi ce qui se passait du point de vue là, des habitants et des réactions par rapport justement à ces injonctions, par rapport à ces efforts qu'ils subissent? Donc là, on a les deux premières photos qui nous montrent en fait très clairement qu'une manière de réagir, c'est de se mobiliser hein, à travers des militants. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, donc là, c'est le cas du terrain de la Madrague de Montredon, c'est donc la mobilisation qui se fait à l'encontre du projet qui est sur l'ancienne friche, sur la friche pardon, de l'usine. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un collectif qui a été mis en place, qui fédère de manière extrêmement large et associations de quartier et associations de défense environnementale, de défense de la santé, et avec une ligne d'attaque très très claire, qui est la défense de la santé publique, mettant entre parenthèses, pour le moment, en tous les cas, la question de l'effort urbain, donc la question de la pression urbaine, du nombre de personnes en plus. C'est-à-dire, ce qui est mis en avant, c'est on ne veut pas qu'il y ait une dépollution au rabais, donc comme c'est dit là, sur ce site pour les constructions. Et puis la dernière photo, donc là on est plutôt dans le quartier de la Cagnole, on y revient, quartier de la Cagnole où il y a une communauté gitane hein, qui est là depuis près de 60 ans. Et elle montre aussi ce qu'on pourrait appeler une résistance passive, c'est-à-dire une façon de s'ancrer de manière intergénérationnelle sur le long terme, de montrer à travers un mode d'habitat, et donc là notamment ce mode d'habitat c'est quoi ? C'est une sédentarisation, mais c'est aussi cette possibilité d'accueil des familles avec les caravanes. Donc là la photo montre une caravane, mais en fait selon l'axe, il y en a trois qui sont sur le terrain, qui jouxtent vraiment la terrasse. On est évidemment sur le cœur de parc, hein, donc vous voyez combien cette question peut être complexe aujourd'hui. Mais donc par cette capacité de s'ancrer et donc finalement de résister. Ouais. Et alors la conclusion, effectivement, donc évidemment nos analyses sont en cours, notamment sur le dernier programme IFIGI, hein, sur lequel les résultats ne sont pas encore parus. Ce qui est important de marquer, c'est qu'au fil de nos recherches, justement sur Marseille, on s'est rendu compte qu'on pouvait quelque part un peu relativiser la notion d'effort environnemental, parce que notamment le parc national des Calanques a bien dû devoir composer, négocier, parce que les usagers ont su faire preuve de différentes capacités, notamment de négociation directe, de transgression, de capacité à aller chercher des appuis locaux ou non locaux d'ailleurs, pour arriver à assouplir cette réglementation. Par contre, dans les lieux d'interface ville-nature, ben c'est vrai que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur. Le parc national a finalement pas beaucoup d'influence, hein, il faut le dire, sur ces lieux qui relèvent de la gestion publique. Et donc là, c'est la stratégie urbaine, municipale, qui va prédominer. L'effort environnemental urbain est fort. Et par contre, c'est-à-dire qu'à la fois, il se fait, mais pas complètement dans le silence. Il induit des mobilisations, et puisque nous pourrions appeler en relation avec ce que Mathieu Giroux dénommait les continuités populaires, c'est-à-dire cette capacité finalement à être là, à agir, à garder aussi, à travers ses représentations et ses usages, à conserver finalement des caractéristiques populaires dans des quartiers qui sont en pleine mutation, en pleine gentrification. Et il précisait aussi que les continuités populaires pouvaient aussi avoir des capacités à finalement marquer l'aménagement lui-même. Alors, un des points sur lequel justement on est en train de regarder, c'est que par exemple dans le plan de paysage dont je vous parlais, sur le secteur de la Cagnole, ce secteur d'ailleurs où il y a la caravane, hein, mais plus largement, est en plein cœur de parc. Alors, il n'est pas question de déclasser, mais quand même, très clairement, on admet aujourd'hui que c'est un morceau de nature en ville. C'est-à-dire que, finalement, cette réconciliation entre ville et nature commence à se faire. Voilà. Et voilà, dernière je vous remercie de votre écoute. Pardon pour le temps dépassé.
Ça va aller encore un petit peu de temps. Merci.